En garde, ça risque de casser un peu l'ambiance aujourd'hui, le chapitre 5. Il y a des textes de la Bible qui apportent des réponses. Il y a des textes qui apportent des questions. Et parfois des questions sans réponse. Sans réponse facile, sans réponse évidente, voire sans réponse du tout. Et le chapitre 5 que nous lisons aujourd'hui fait partie de cette deuxième catégorie. Il y a beaucoup de questions, et depuis 2000 ans, les commentateurs, les théologiens, les hommes et les femmes de l'Église ont cherché des réponses. Des hypothèses ont été formulées, mais elles ne sont pas toujours très convaincantes. Et donc avec ce texte, certaines questions restent sans réponse. Ça ne veut pas dire que nous n'apprenons rien, ni même que la parole de Dieu ne nous fait pas grandir, bien au contraire. On voyait souvent Jésus répondre à une question par une autre question. Une question nous met davantage en mouvement qu'une réponse. Alors je propose de lire le texte ensemble, il va s'afficher. Alors on va commencer un petit peu à la fin du chapitre 4, et puis on va lire le début du chapitre 5. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposer au pied des apôtres, et l'ont distribué à chacun selon ses besoins. Ainsi, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé ou Barnabas, ce qui se traduit par « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Là, on arrive au chapitre 5. Or, un nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit aussi une propriété. Et avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ ? Lorsque celui-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder ? Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité ? Comment as-tu pu envisager pareille action ? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu. » Et quand Ananias entendit cela, il tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui la prirent. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Sache-le. Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront aussi. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur rentrée, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'église et tous ceux qui apprirent cela. Beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Parmi les autres, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple est magnifié. De plus en plus de gens croyaient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes. J'ose même pas vous inviter à prier, tellement ce texte est saisissant. Mais prions quand même, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, faisons face ce matin à un passage difficile de la Bible. Nous te demandons ton aide pour venir ouvrir notre esprit, notre intelligence, notre cœur, nous garder dans la foi. Amen. Alors, il y a un fait remarquable dans ce que nous avons lu, c'est au verset 11. Dans le livre des Actes, c'est au chapitre 5, le verset 11, la première fois que le mot « église » dans le texte original, donc le mot « ecclésia », est écrit. Donc c'est déjà surprenant qu'il arrive si tard. Alors dans nos traductions en français, on a le mot « église » des fois au chapitre 2, au chapitre 3, mais dans le texte original, il n'y est pas. C'est nos traductions qui l'ont rajouté pour faciliter la traduction. Et alors c'est étrange que ce mot vienne juste après cette histoire tragique. Pourquoi Luc l'utilise-t-il qu'à partir de maintenant ? On voit que donc la communauté des croyants à Jérusalem accomplit sa mission et elle remporte un succès grandissant par la grâce de Dieu. Et on voit que même cet épisode difficile ne freine pas la progression de l'évangile. Mais en même temps, Luc veut attirer l'attention de ses lecteurs sur la situation de cette église. En fait, elle subit des dangers, des menaces, des périls. Nous voyons des dangers, mais qui viennent de l'extérieur. Au chapitre 3, les chefs du peuple voulaient empêcher les apôtres de répandre l'évangile. Au chapitre 4 aussi, il y avait de l'intimidation, des interdictions. Ils ont même été battus. Et puis dans la suite du chapitre 5, on ne va pas le lire ce matin, mais vous connaissez l'histoire, ils ont même été emprisonnés. Il y a de l'adversité, de la confrontation. Il y a de la difficulté. Et ça va aller en s'amplifiant. Vous connaissez l'histoire, hein, il y aura l'histoire d'Étienne qui sera mise à mort au chapitre 6 et 7. Et au chapitre 8, il y a une telle persécution, c'est écrit comme ça, que les chrétiens vont fuir de Jérusalem. Et alors tout ça, ça vient de l'extérieur de l'Église. Et ce que nous voyons là, cette histoire d'Ananias et Saphira, elle est très étonnante parce qu'elle vient de l'intérieur de l'Église. On voit qu'il y a des belles choses et des belles forces dans cette Église de Jérusalem, mais il y a aussi des faiblesses. Et on a l'impression que Luc met le projecteur dessus. Alors tout d'abord, vous l'avez peut-être vu dans le passage que nous avons lu, il y a trois fois l'expression « au pied des apôtres ». Et je voudrais mettre en première partie le focus sur la générosité qui caractérise l'Église naissante à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois que l'auteur Luc en parle. Les croyants vendaient leurs biens, un champ, une maison, une propriété, et mettaient tout en commun. On comprend donc qu'il y avait des personnes aisées dans l'Église. Elles avaient des biens. Et puis chacun apportait librement de quoi financer la vie de la communauté. Donc l'expression utilisée est assez imagée. On apportait l'argent aux pieds des apôtres. Alors moi, mon imagination me fait voir la scène. Barnabas vient de vendre son champ. Il a une belle somme, des pièces sonnantes et trébuchantes. À l'époque, il n'y a pas de CB, pas de virement électronique. Ah non, c'est des vraies pièces. Beaucoup de pièces. Et donc Barnabas met toutes ces pièces dans une besace, dans une bourse bien solide en cuir ou en toile, avec un solide lacet pour fermer. Ça pèse lourd. Je ne sais pas combien, peut-être 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Et donc il emporte ça dans la maison où sont les apôtres et il pose la bourse à leurs pieds. Le symbole est très fort. Voici ma contribution. Elle est maintenant à vos pieds. Elle est entièrement à vous. Elle vous appartient. Et alors que faisait-on de l'argent ensuite ? On ne sait pas très bien. On comprend juste qu'il n'y avait personne dans le dénuement. Donc il était distribué selon les besoins. Alors je suppose aux veuves, aux orphelins, peut-être aussi aux infirmes qui ne pouvaient pas travailler. Mais certainement aussi pour couvrir les frais de vie des apôtres qui se consacraient à porter la bonne nouvelle du royaume de Dieu et enseigner les croyants. Le texte semble dire que ça se passe aussi dans une maison. Était-elle prêtée aux apôtres ? Ou était-elle louée par l'Église ? On ne sait pas. Mais on voit donc toute cette générosité. Et on se pose souvent la question de savoir pourquoi cette pratique de vendre ses biens est restée très spécifique à cette Église. En effet, on ne voit nulle part dans les autres églises du Nouveau Testament une telle ardeur à vendre ses biens. Certains théologiens ont suggéré une réponse. À Jérusalem, les premiers croyants étaient persuadés que le retour de Jésus était imminent. Il allait revenir dans quelques semaines, quelques mois. Ils pensaient que la fin des temps était proche et ils ont agi en conséquence. C'est peut-être ce qu'ils ont encouragé, cet élan à vendre ses biens, ses propriétés, ses maisons. Ça ne s'est pas retrouvé dans les autres églises du Nouveau Testament parce que progressivement, les croyants ont compris que la période de proclamation du salut allait durer plus longtemps. La fin des temps serait pour plus tard. Alors c'est une hypothèse plausible. Mais regardons surtout au bon endroit. Ce que Luc veut mettre en lumière, c'est évidemment la générosité libre et joyeuse qui a toujours fait partie de la marque des chrétiens, des croyants. Le don gratuit fait aux autres, croyants ou non-croyants, à l'image de Jésus qui s'est donné librement. Cette générosité se retrouve dans toutes les églises du Nouveau Testament, et bien au-delà, y compris dans la nôtre. Donc, un des risques de l'Église, ça serait de perdre cette générosité. Et vous comprenez pourquoi. La communauté n'aurait plus les moyens de poursuivre sa mission, d'annoncer l'Évangile. Alors, ça peut paraître très terre-à-terre et bizarre de dire que pour annoncer l'Évangile, il faut des moyens financiers. Rappelez-vous que même la petite équipée formée par Jésus et ses quelques disciples était soutenue financièrement. C'est clairement rappelé dans l'Évangile. Et donc, c'est à la fois une réalité terrestre et à la fois une réalité spirituelle. À Jérusalem, pour financer leur œuvre, certains vendaient leurs biens et d'autres apportaient certainement régulièrement leurs offrandes. Les deux restent valables. Ce qui est remarquable, ce n'est pas la manière dont ça se passe, mais c'est la générosité qui est exprimée. Alors, donc, ça nous aide peut-être à ne pas idéaliser non plus cette époque révolue. Parce que regardons autour de nous. C'est la même chose dans notre Église. Nous pouvons en être fiers et reconnaissants. Regardons autour de nous ce matin. Samuel nous a parlé de l'entraide. Et puis nous voyons aussi un bâtiment, un parc, une maison des parents. Et tout ça, c'est quoi ? C'est le résultat de notre générosité, la générosité de la communauté. Ceux qui étaient là, il y a quelques années, et puis nous, chacun de nous. C'est le résultat de la générosité de chacun pour manifester la gloire de Dieu dans notre localité ici à Nîmes. Très concrètement, c'est notre générosité qui fournit les ressources financières mises en commun au service de l'annonce de l'Évangile. Alors parlons de nos personnages. En fait, ce n'est pas des personnages, c'est des personnes. Deux hommes et une femme. Alors Barnabas, on apprend beaucoup de choses. Donc j'ai imaginé tout à l'heure comment ça s'était passé. Et puis Barnabas, dans le livre des Actes, il va prendre un rôle important à partir du chapitre 8, aux côtés de Saul de Tarse, qui deviendra Paul. On voit que Barnabas est un lévite, c'est donc un prêtre juif, qui est devenu croyant, qui est devenu disciple de Jésus. Son vrai nom est Joseph. Bon, c'est un prénom assez répandu. Et il avait un surnom, Barnabas, qui veut dire donc « fils de l'encouragement ». On comprend que c'était certainement un homme attachant, une belle personne, quelqu'un qui fait du bien. On devait être heureux de le rencontrer, car il devait être certainement ce genre de personne avec qui on se sent bien. Vous savez, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui sait vous remonter le moral, qui sait vous encourager, qui sait partager vos peines, vos joies. Voilà, c'est lui, c'est Joseph, Barnabas. Et puis juste après, Luc enchaîne avec ce couple décevant, Ananias et Saphira, qui eux aussi vendent une propriété, mais il se passe quelque chose dans leur tête. Alors on essaiera de comprendre un peu plus tard. Ils se mettent d'accord en cachette pour faire un truc pas très sympa. Ils disent « On garde une partie pour nous en secret et on apporte le reste aux pieds des apôtres en faisant croire aux autres qu'on a apporté la totalité. » Donc on est confronté dans ce texte à un flagrant délit d'association de deux personnes pour tromper, mentir, faire semblant. On est face à deux imposteurs qui veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Alors, première question, pourquoi Ananias et Saphira ont choisi ce stratagème ? Et on n'a pas de réponse dans le texte. Avaient-ils envie de briller aux yeux de la communauté des apôtres ? Avaient-ils besoin de reconnaissance ? Avaient-ils envie de se faire passer pour des gens très spirituels ? Étaient-ils grippe-sous ? Certains théologiens ont formulé une hypothèse. Lorsque les croyants faisaient un don total de leurs biens, bon, ils n'avaient plus rien du coup, et c'est la communauté qui leur donnait, comme aux gens démunis. Donc ils recevaient de l'aide financière de la part de la communauté. Alors peut-être qu'Ananias et Saphira s'étaient dit, on va faire croire qu'on donne tout, comme ça on va recevoir l'aide de la communauté, et puis on se garde un petit magot pour nous, ça nous en fera un petit peu plus. Voilà, c'est une hypothèse. On ne sait pas. Alors pour faire le lien avec le carrefour biblique, il y a deux semaines, on a vu qu'on est tous envahis par des peurs. De quoi avaient-ils peur ? Avaient-ils peur de manquer ? Avaient-ils peur de ne pas en avoir pour leur argent ? Avaient-ils peur d'être vulnérables ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça tourne mal. Le mari apporte l'argent aux pieds des apôtres, il tombe à la renverse et meurt. 3 heures plus tard, sa femme vient voir les apôtres. Certains ont suggéré l'idée qu'elle se demandait pourquoi son mari n'était pas rentré à la maison. Alors elle le cherchait, et du coup elle vient voir les apôtres. Elle maintient son mensonge, elle meurt aussi. Alors en lisant cette histoire, confortablement installée, dans notre fauteuil du XXIe siècle, on pourrait se dire assez rapidement, eh ben, bien fait pour eux. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe ? Prenons quelques instants et imaginons que dès qu'un croyant commet une faute, une erreur, il meurt. Qui serait là ce matin ? Pas moi. De qui est composée l'Église de Jésus-Christ ? Des gens impeccables, droits et parfaits, ou des pécheurs sauvés par grâce ? J'aurais préféré une autre fin à cette histoire. Moi, j'imagine une autre possibilité. Ananias et Saphira ne meurent pas. Et puis, ils reconnaissent qu'ils se sont égarés. Ils demandent pardon. Ils sont réintégrés, restaurés au sein de la communauté, et l'Église en tire une belle leçon. J'aurais préféré que cette histoire se termine bien. Mais l'histoire d'Ananias et Saphira reste à tout jamais une histoire qui finit mal. Au travers de cet épisode tragique, Luc fait apparaître une faiblesse importante pour l'Église. On a vu qu'il y avait des risques, des menaces de l'extérieur, et là il y a une faiblesse qui vient de l'intérieur. Alors cette faiblesse, elle se manifeste ici par un exemple de contrefaçon, d'hypocrisie, de mensonge, de tromperie. On verra dans le chapitre 6, il y a une autre faiblesse qui apparaît, c'est que les veuves sont prises en charge par la communauté, et les veuves d'origine juive sont mieux traitées que les veuves d'origine grecque. Ou on pourrait dire les veuves d'origine grecque sont moins bien traitées que celles qui sont d'origine juive. Donc, tu n'es pas traité de la même manière selon ton pays d'origine. Ça aussi, c'est une forte faiblesse. Bon, c'est le chapitre 6, restons au chapitre 5. Alors, l'hypocrisie, c'est pas un problème nouveau. Ça existait déjà, puis ça existait encore après. Rappelez-vous Jésus qui citait à plusieurs reprises dans les évangiles le texte d'Ésaïe, où Dieu déclare « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est une menace de l'Église, c'est une menace de l'Évangile. Un cœur partagé, une duplicité. Alors, heureusement, on trouve des réponses dans les psaumes. La réponse, c'est toujours « Viens à notre aide, Seigneur. Fais-nous revenir à toi. Réunifie notre cœur. » L'hypocrisie, c'est un mal qui a tourmenté l'Église et l'humanité en tout temps. C'est parfois un reproche fait aux chrétiens et qui affaiblit notre témoignage. Mais je crois que dans ce texte, ce n'est pas le véritable fond du problème. C'est un des symptômes, ce n'est pas le seul. Alors je vous propose qu'on parle ce matin du fond du problème. Quel est ce fond du problème que Luc met en lumière ? Le problème de fond, c'est la faiblesse des croyants que nous sommes, qui ont encore la capacité de faire le mal et de pécher. Alors ce matin, je ne vais pas faire la morale sur l'hypocrisie. Je préfère parler du problème de fond et d'envisager des pistes pour en sortir. Alors nous allons en parler tout à l'heure, mais j'aimerais avant ça m'attarder sur la principale difficulté de ce récit. Il y a une énigme. Pierre et les apôtres ont eu deux décès sur les bras, coup sur coup. Ça a dû être un choc pour eux, pensez pas ? Qui a tué Ananias et Saphira ? On ne sait rien sur eux. Est-ce qu'ils étaient jeunes, dans la force de l'âge ? Est-ce qu'ils étaient plus âgés ? Est-ce qu'ils avaient des enfants ? On ne sait pas, le texte ne nous dit rien. Ils faisaient partie de l'Église, de ceux qui ont reçu l'Évangile, qui ont cru. Avaient-ils des amis ? Certainement. Et j'imagine qu'ils ont fortement manqué après leur disparition. De nos jours, lorsqu'il y a un décès, il y a une enquête de police. Alors je ne sais pas s'il y en a eu une à Jérusalem. J'aurais aimé pouvoir mettre la main sur le rapport. J'imagine que l'affaire a été classée sans suite. Il faudrait chercher qui sont les suspects, ont-ils un alibi, quel est le mobile, à qui profite le crime. Certains théologiens ont prétendu que c'est Pierre qui a tué Ananias et Saphira, directement ou indirectement. Bon, le texte ne dit pas ça. Alors c'est vrai qu'à un moment, quand Saphira arrive, il lui dit qu'il va lui arriver le même sort qu'à son mari. Mais ça ne fait pas de lui l'auteur de la mort. Pierre est un témoin de la scène. Certains lecteurs pourraient reprocher à Pierre une sorte de dureté dans ses propos. Mais attention, là, le récit est donné en quelques phrases par Luc. Et Luc, ce n'est pas un romancier, il ne décrit pas les sentiments, les émotions, l'état d'esprit des personnes. Hein ? On a juste les infos minimales. On ne sait pas dans quel état d'esprit ça s'est passé. On ne sait pas si Pierre était en colère ou s'il était bienveillant. Quand il parle à Saphira, on peut le comprendre de deux manières. Soit il la confronte, ou alors, au contraire, il lui tend une perche pour lui permettre d'avouer et de ne pas subir le même sort que son mari. On ne sait pas tout ça. Alors d'autres ont dit, c'est Dieu qui a enlevé la vie à ce couple pour les punir de leur hypocrisie. Ah, vraiment ? Mais de quoi parle-t-on ? Ça se passe où déjà ? Dans la communauté des pécheurs sauvés par grâce. Le message de Dieu, c'est le suivant. L'apôtre Jean l'a dit ainsi, « Si quelqu'un vient à pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ son Fils, qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Dieu qui ferait mourir le pécheur pour le punir, je ne crois pas que ce soit comme ça que ça se passe. Je crois que c'est plutôt un des mensonges que le diable fait courir sur Dieu, une fausse idée sur lui. Regardons dans la Genèse, Adam et Ève étaient prévenus. Mangez de tous les fruits, sauf celui qui donne la connaissance du bon et du mauvais. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais voilà que le jour où ils en ont mangé, vous avez remarqué, ils ne sont pas morts. En tout cas, Pas tout à fait. Ils ont été remplis de sentiments nouveaux, la peur, la honte, mais ils ne sont pas morts sur le coup. Pourquoi ne sont-ils pas morts sur le coup? Le verdict, le jugement attendu, n'a pas été appliqué immédiatement. Que s'est-il passé? Il semble que Dieu ait retardé l'action du jugement. Dieu a pris patience et a déployé sa force pour retarder l'action du péché. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui se plaît à aimer, à aider, à sauver. Si Adam et Ève étaient morts de suite, ils n'avaient plus de possibilité de revenir à Dieu. Et Dieu a usé de patience. Il a retenu le poison du péché. Un peu plus tard même, il leur offre des vêtements de peau pour cacher leur honte. Notre Dieu est comme ça. Il vient en aide. Et Adam et Ève ont pu revenir vers Dieu. Et c'est l'histoire de toute l'humanité. Dieu aime et soutient chacune de ses créatures. Dieu use de patience envers tous pour permettre qu'ils soient sauvés. Ça, c'est un verset que Pierre a écrit dans sa lettre. Et nous savons que Dieu le Père a mis en mouvement son grand plan pour sauver l'humanité, accompli par Jésus et maintenant répandu par le Saint-Esprit et l'Église. Alors si ce n'est pas Dieu qui a tué ce couple, qui est-ce? Il y a une autre hypothèse. Paul déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et de son côté, Jacques fournit le descriptif d'un processus. C'est dans Jacques, chapitre 1. Il écrit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Le péché produit la mort. Est-ce que le mensonge de ce couple a généré sa mort? Difficile de répondre. Ceux qui ont déjà menti parmi nous, sont toujours vivants. Alors bien sûr, on peut dire que le mensonge tue à petit feu, n'est-ce pas? Autant celui qu'il prononce que celui qu'il subit. Chez les deux, quelque chose est cassé à l'intérieur. Alors parlons aussi de notre liberté. Notre liberté reste en jeu. Dieu nous a créés libres vis-à-vis de lui. Que se passe-t-il si quelqu'un refuse Dieu? Alors, pour développer, sans prendre trop de temps, Timothy Keller, un théologien de notre époque, explique ceci. L'essence du péché est de dire « je ne veux pas de Dieu dans ma vie ». Et l'essence de la colère judiciaire de Dieu consiste à nous donner ce que nous avons demandé. Il n'y a rien de plus juste que ceci et rien de plus terrible. Timothée Keller continue. D'après la Bible, nous sommes tous faits pour Dieu, ici-bas. Même ceux qui ne croient pas en lui ou le fuient ne sont pas complètement coupés de lui. Paul relève qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est un verset des Actes. Même si nous ne reconnaissons pas le Dieu de la Bible, ce dernier soutient notre existence de façon invisible à nos yeux. Que se passerait-il s'il décidait de retirer sa puissance pleine de grâce et de ressources de notre vie? Nous connaîtrions une sorte d'agonie, une sorte de désintégration. Alors on pourrait parler de ces sujets longuement, mais le temps passe. Et je voudrais donc parler, la dernière partie, parler un petit peu de notre liberté. En particulier face au mal, au péché. Parce que Ananias et Saphira, ils étaient totalement libres. C'est un vaste sujet, compliqué, douloureux. Nous sommes libres, mais nous sommes faibles aussi. On imagine que Saphira aurait pu dire à son mari « Mais tu n'y penses pas, on ne va pas faire ça. » Ils ont décidé de le faire. Chacun de nous, peut-être, nous avons vécu des situations où nous avons décidé volontairement de faire ce que Dieu n'aime pas. Et c'est là une réalité, notre faiblesse. Alors, une particularité de notre faiblesse, c'est que nos pensées sont perméables au mal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous pouvons avoir des idées qui sont mauvaises. On peut avoir des bonnes idées, on peut avoir des bonnes pensées, et puis des fois, on a une mauvaise idée, une mauvaise pensée. Souvent associée à un désir, une envie, mais pas toujours. Et le problème de ces idées mauvaises, c'est que si on les laisse se développer, s'amplifier en nous, elles nous orientent et elles nous poussent au mal. Avec l'expérience, nous découvrons comment les idées mauvaises jaillissent en nous et comment elles nous poussent à commettre le mal. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons apprendre à les refuser, à les rejeter. Et il faut le faire au plus vite, dès le départ, le plus vite possible, parce que nous sommes faibles, et si nous les laissons se développer un tout petit peu, nous sommes fichus. Plus vite nous les rejetons, plus vite nous revenons en sécurité. Vous savez, dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, il y a cette histoire des baobabs qui sont difficiles à retirer lorsqu'ils ont poussé. Mais lorsqu'ils viennent juste de germer, c'est une toute petite pousse et on la retire facilement. Martin Luther, lui, comparait ses mauvaises idées à des oiseaux qui tournent au-dessus de nos têtes. Et vous connaissez cette phrase, hein, il disait « On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de venir faire leur nid sur notre tête. » Une autre erreur courante est de penser que nous sommes seuls à affronter cette faiblesse. Et en effet, nous ne sommes pas seuls. Non seulement Dieu est de notre côté, et il nous vient en aide, mais aussi nous avons des frères et des sœurs qui peuvent partager notre souci, parce qu'ils ont les mêmes faiblesses que nous, et ils peuvent nous aider. Le secret de nos faiblesses est lourd à porter tout seul. Et dans la lettre de Jacques, Dieu nous propose de nous ouvrir à un autre en qui on a confiance pour trouver de l'aide, pour avouer notre faiblesse, pour parler de notre péché et de recevoir plus facilement le pardon et la restauration. Alors une autre question se pose. Comment se fait-il que nous progressions si vite dans certains domaines et si lentement dans d'autres domaines de notre vie? Alors nous savons que le chrétien s'engage sur une voie de transformation avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter dans le cœur du croyant. Et pour certains, une transformation immédiate se produit. Les vices ancrés depuis des années appartiennent au passé. À partir du moment où on reconnaît notre besoin et que notre impuissance et que Jésus vient nous en libérer. Mais pour d'autres, ou pour les mêmes, certains traits de caractère néfastes restent présents très longtemps. Et on ne grignote du terrain sur eux que très progressivement, avec des rechutes et des retours en arrière. C'est très étonnant, n'est-ce pas ? À chaque fois que nous en avons besoin, la Bible nous le rappelle, si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous délivrer de toute iniquité. Voici le chemin face à notre faiblesse. Tout simplement en nous approchant de notre Père et de notre avocat, Jésus, pour recevoir le pardon et l'assurance de son amour inconditionnel malgré notre faute, malgré notre faiblesse. Alors un dernier sujet qui découle de cette histoire de ce matin, c'est la question de savoir comment accueillir ceux qui commettent des fautes ou des erreurs au sein de l'Église. Est-ce qu'on va les foudroyer sur place ? Alors je ne vais pas développer ça, hein, je n'ai pas le temps. Et puis il y a beaucoup de cas de figure dans les différentes lettres de Paul. Et on se demande pourquoi il n'applique pas toujours la même règle. En revanche, dans Galates 6, chapitre 1, il donne un principe à appliquer. « Mes frères, si quelqu'un vient être surpris en une faute, quelle qu'elle soit, vous qui êtes spirituel, aidez-le à se rétablir avec un esprit de douceur. » Et ça, c'est encore un risque pour l'Église de perdre cela. Alors nous allons terminer là-dessus ce matin. Donc ce récit d'acte 5 où deux croyants mentent et meurent est un récit difficile. Alors nous n'avons pas abordé toutes les questions qui se posent, mais uniquement quelques-unes. Nous avons vu que l'Église de Jérusalem avait des forces, mais aussi des faiblesses. Alors nous avons essayé de comprendre pourquoi, ou plutôt imaginer pourquoi, Ananias et Saphira ont décidé de s'engager sur la voie qu'ils ont suivie. Et puis nous avons parlé du sujet de notre liberté, de notre faiblesse, et comment Dieu nous vient en aide. Et peut-être c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter ce matin pour finir. Et ce qu'il faut retenir de ce matin, c'est que Dieu nous vient en aide dans nos situations de vie, dans nos faiblesses. Et j'aurais relire pour finir ce verset que Christophe nous a lu au début du culte. Car nous n'avons pas un Jésus qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins, dans toutes nos faiblesses. Amen.
Merci Loïc, et donc pour faire suite à la fin de